L'Église cette année, c'est vivre l'Évangile. J'allais vous donner le thème du message ce matin. Vivre l'Évangile. Alors, il y a eu une semaine bousculée. Hier, j'ai cherché la face du Seigneur. J'ai commencé dans plusieurs pistes. Et finalement, le Seigneur a eu pitié, je pense, et m'a donné à cœur de vous prêcher un message sur vivre l'Évangile. Suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vivre l'Évangile, suivre le Seigneur Jésus-Christ. En Jean 8, verset 12, le Seigneur a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et on a vu déjà en Marc que suivre Jésus-Christ, vivre l'Évangile, c'est aussi se consacrer à lui, puisque le Seigneur a dit ceci, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le Seigneur désire à ce qu'on vive dans la lumière en le suivant. Le Seigneur désire à ce qu'on marche avec lui en le suivant et ainsi l'honorer afin de rendre digne le royaume de Dieu parmi nous. Je vous invite à tourner dans vos Bibles à Matthieu 10, verset 38. Matthieu 10, verset 38. Il y a un verset ici qui est assez tranchant. La parole de Dieu dit qu'elle est comme une épée à double tranchant. Il dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. On n'a pas encore vu la deuxième partie du verset 35 de Marc 8 à propos de qu'est-ce que c'est se charger de sa croix. Il faut comprendre, on le verra une autre fois j'espère, que se charger de sa croix c'est synonyme non pas de ses souffrances dues à la vie, quoique la vie a ses souffrances, mais aux souffrances dues à la persécution. Prendre sa croix, se charger de sa croix, c'est participer aux souffrances de Christ et de témoignages qu'il a eu lui en son temps, rendant témoignage de Dieu le Père et qu'il a amené à la croix. Il faut s'attendre à ce que si nous témoignons de Jésus-Christ, nous ayons aussi notre part de combat, de difficultés, de persécutions, de moqueries, de combats spirituels. Mais ici, le sujet de ce matin, c'est suivre Jésus-Christ. Alors, il est écrit que celui qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, la question de ce matin, c'est est-ce que je suis digne? Et donc, est-ce que je suis le Seigneur Jésus-Christ selon ce qu'il me demande? Quelqu'un, un disciple digne de nom, suit son Seigneur. Suivre Jésus-Christ, c'est faire honneur au Maître. Alors, le disciple est digne envers son Maître lorsqu'il se conforme aux exigences du Maître. On a souvent dit, il n'y a pas de disciple s'il n'y a pas de discipline. En fait, le fait de ne pas suivre le Seigneur est indigne du Maître. Suis-je vraiment digne de mon Seigneur? Alors nous allons regarder ce que c'est que de suivre le Seigneur. Mais en Jean chapitre 10, il y a un autre texte que j'aimerais souligner avec vous ce matin, qui dit ceci, Jean chapitre 10 et verset 4 tout d'abord, il est écrit « Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Et un peu plus loin, au verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il est clair ici dans le texte que si nous connaissons le Seigneur, nous sommes une de ses brebis et nous suivons le bon berger. Maintenant, dans ces trois paraboles, on n'a pas le temps de discuter en détail de ce passage, chapitre 10, verset 1 jusqu'au même verset 27. Mais dans les trois paraboles qui consistent en ce texte, en fait, il est question d'une première parabole où Jésus se tient proche de la bergerie et en fait, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. On ne peut pas aller dans tous les détails de l'explication ici, ce n'est pas l'objet de ce message de ce matin, mais il y a l'idée de Jésus qui se tient devant la bergerie du judaïsme, là où les Juifs sont prisonniers de leur tradition. Et peut-être vous aussi, vous étiez prisonniers de votre tradition religieuse. Et il les appelle à sortir du judaïsme, il les appelle à sortir de leur religion pour le suivre à lui en tant que personne. Jésus a dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le vrai cep, parce qu'Israël, dans l'Ancien Testament, était comparé à une vigne. Et maintenant, c'est lui le vrai cep et les Juifs doivent se tourner vers lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est la nouvelle alliance, n'est-ce pas, envoyé par Dieu le Père, et sortir de ce monde religieux qui parfois était fait de faux enseignements par les pharisiens qui mettaient la tradition en avant plus qu'une foi personnelle. Et Jésus appelle ces gens-là à sortir de leur fausse religion parce qu'en fait, ils ne sont pas conduits par de vrais bergers. Et ensuite, il les amène vers de verts pâturages et il les conduit dans sa bergerie à lui. Il devient la porte par laquelle on est sauvé et il amène ensuite ses brebis dans une vraie bergerie à partir de laquelle les brebis sortent, trouvent la vie et sont en sécurité. La question ici est la suivante. On ne peut pas suivre Jésus-Christ si on n'est pas sorti de sa tradition, si on n'est pas passé par lui le chemin, la vérité et la vie, si on n'est pas sauvé, si on n'a pas reçu de lui le pardon des péchés, la vie éternelle, afin qu'il soit le bon berger. Alors si ce n'est pas encore votre cas, peut-être vous tâtonnez pour suivre le Seigneur Jésus-Christ tout en désirant le suivre, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et passer par la porte. Et dire oui, Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, tu es mon sauveur, mon Seigneur, et je deviens ainsi ton disciple. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Alors une fois qu'on est né de nouveau, on a envie de suivre le Seigneur. Et il faut dire que parfois nous trébuchons. Dans notre désir de suivre le Seigneur, de connaître sa volonté, nous désirons connaître Dieu, connaître dans le sens de connaître la nature de Dieu et sa volonté appliquée à nos vies. Mais il faut dire que des fois, c'est un peu difficile et c'est pour ça que Jésus nous a rassurés en Jean chapitre 8, verset 12, lorsqu'il a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Alors, j'aimerais vous proposer ce matin qu'on regarde ensemble, par la grâce de Dieu, ce que c'est que suivre Jésus. Et tout d'abord, suivre Jésus-Christ, c'est répondre à son appel. Quel appel ? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Ensuite, Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, c'est vivre dans sa lumière. Et on verra un troisième point, suivre Jésus-Christ, c'est le servir. Et enfin, suivre Jésus-Christ, c'est suivre ses traces. Alors, je vous invite à tourner en Matthieu chapitre 4 pour voir tout d'abord quel est le premier appel que Jésus a lancé à ses disciples. J'espère avoir le temps de compléter ce message ce matin et de vous donner donc l'esquisse en quelque sorte de au moins quatre caractéristiques du disciple qui suit son maître. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, c'est bien le sujet de ce matin, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et la Bible dit ceci « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus a appelé des hommes, c'était des pêcheurs de poissons, pour en faire des pêcheurs d'hommes. Une fois qu'on est sauvé, on a envie de servir le Seigneur. Et une façon de le suivre, c'est devenir aussi un gagneur d'âmes. Une fois qu'on est sauvé par grâce, on se sent appelé par le Seigneur à aussi gagner d'autres personnes. Et le même message qui nous a touchés, que notre frère a esquissé un petit peu par le début du verset à Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Une fois qu'on a découvert que le Seigneur prend nos fardeaux, on a envie que d'autres découvrent le Seigneur pour que lui-même enlève les fardeaux de ce qui nous entoure. Ça peut être la maladie, le péché essentiellement, les difficultés de la vie. Jésus devient alors le bon berger pour eux aussi. Et on a envie de gagner des âmes au Seigneur. Je me souviens la première fois où j'ai eu la joie d'amener quelqu'un au Seigneur, j'ai tremblé, je n'avais jamais fait ça de ma vie, et j'ai prié le Seigneur, et savez-vous quoi? Ça a marché. Le Seigneur a sauvé ce jeune homme à genoux avec moi au pied de son lit pour accepter le Seigneur et ensuite le suivre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cela. À Matthieu 9, un peu plus loin, Matthieu 9, verset 9, il est écrit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand Jésus est allé vers les premiers disciples qu'il a appelés et qu'il a appelé Matthieu, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces hommes-là qui étaient pourtant occupés dans leur métier, en charge vraisemblablement de leur famille, ils ont suivi le Seigneur. Ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur. C'est extraordinaire cela. Donc quelque part, suivre le Seigneur, c'est répondre à son appel et obéir au Seigneur. Nous devons apprendre à connaître la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et il a fait cela. En Jean, on voit combien Jésus était dépendant de Dieu le Père. À combien plus forte raison avons-nous besoin de dépendre du Seigneur Jésus-Christ, de connaître sa volonté et ainsi de le suivre. En 1 Jean 1, 43, à propos de Philippe, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Ben, Philippe l'a suivi. C'est extraordinaire. Et par contre, il y a parfois des échecs, même dans le ministère de Jésus. Ce n'est pas que Jésus est un échec, il faut bien se comprendre. Mais lorsqu'il a rencontré le jeune homme riche, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et il est écrit que le jeune homme riche est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il préférait sa position, chef de synagogue, sa fonction, sa position d'homme aisé, plutôt que justement croire simplement en Jésus-Christ et le suivre, qui lui demandait de se dépouiller, dans le sens, était le test, m'aimes-tu plus que tes richesses? Autrement dit, est-ce que si tu me suis, tu vas vraiment me donner la première place, être mon maître? Et le jeune homme est riche et parti tout triste, parce qu'en fait, il préféra ses biens au don suprême de la vie éternelle. Vous vous rendez compte de ce mauvais calcul? Celui qui croit gagner, qui finalement perd tout, alors qu'en perdant tout, en répondant à l'appel de Dieu, on gagne tout. Et on reçoit de sa part, notamment au travers du salut, la vie éternelle. Je veux dire, mais ce n'est pas facile de répondre à l'appel de Jésus-Christ et de le suivre. Et Jésus nous en a parlé. Tournez avec moi dans Luc chapitre 9. Il y a ici une histoire qui doit nous faire réfléchir à partir du verset 57. Et je crois que le Seigneur nous a laissé ce passage pour nous montrer qu'il y a des obstacles à franchir pour suivre le Seigneur. Il est écrit au verset 57, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Remarquez bien ici que ce n'est pas Jésus qui appelle cet homme-là, c'est lui qui se présente en candidat d'être disciple. « Seigneur, je te suivrai. » Alors Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il disparaît. On n'entend plus parler de cet homme-là, parce que Jésus est en train de lui montrer le prix à payer pour suivre le Seigneur, qui peut amener parfois une vie inconfortable. Et cet homme-là, qui pensait que c'était facile, un peu superficiel, alors il a dit, je te suivrai partout où tu iras. Et quand Jésus lui donne un premier test, ben, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, on ne le voit plus. Il ne suit plus Jésus. Donc vous savez, on peut être candidat à suivre le Seigneur, mais ne pas être prêt à payer le prix. Un deuxième verset ici nous dit ceci, et il dit à un autre, là c'est Jésus qui appelle quelqu'un, « Suis-moi ». Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Est-ce que c'est mal d'aller ensevelir son père? Certainement pas. Mais dans le contexte ici, l'urgence du royaume, et vu que Jésus est présent sur la terre, Jésus lui fait une réponse qui est apparemment choquante au début. « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Autrement dit, il est en train de lui dire « Voilà la bonne priorité, si tu me suis, tu dois annoncer le royaume de Dieu. » Tu ne dois plus te préoccuper des choses temporelles. Bien sûr, l'idée d'enterrer son père, c'est par contraste que Jésus nous appelle à comprendre cela. Il n'y a rien de mal à enterrer son père. Mais il y a un message qui est beaucoup plus important, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, parce que les vivants sont morts spirituellement. Et celui qui meurt sans Christ, la Bible dit qu'il est perdu, qu'il va en enfer pour toujours. Et donc le message qu'on doit communiquer aux hommes, c'est celui de la vie, plutôt que d'aller, évidemment, enterrer son père. C'était bien, mais ce n'était pas la bonne priorité, vu l'urgence d'annoncer le royaume de Dieu à ce moment-là. Donc c'est Jésus qui appelle, et le candidat lui dit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Et voyez-vous, c'est le piège de vouloir d'être appelé par le Seigneur, mais de dire, « Moi d'abord. J'ai quelque chose de plus urgent à faire. J'ai quelque chose de plus important à faire. » On est tellement préoccupé, mes chers amis, par beaucoup de choses à faire. Mais si on n'en prend pas le temps de faire de Jésus et l'annonce du royaume une priorité, on n'est pas en train de suivre le Seigneur, de répondre à son appel. Et finalement, Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Le candidat disparaît. Un candidat qui se présente et qui disparaît, un superficiel. Un candidat qui est appelé mais qui disparaît parce que les choses temporelles semblent être plus importantes que le royaume de Dieu. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » La priorité, c'est le royaume de Dieu. Et la réponse du candidat disciple que le Seigneur lui-même appelle, c'est « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé. Moi d'abord. » Est-ce que dans le plan de Dieu, pour chacun de nous qui voulons être des disciples, Dieu dit « Toi d'abord. » Autrement dit, le disciple se présente devant Dieu et dit « Moi d'abord. » Est-ce que c'est possible cela? Paul disait « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce qu'on laisse le Seigneur Jésus vivre en nous pour que lui vive sa vie et prioritairement l'annonce du royaume de Dieu? Nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. L'affection de Dieu doit être une priorité face à l'affection de nos bien-aimés. C'est choquant, quelque part. Mais nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Pour être un disciple, d'ailleurs c'est écrit dans un autre passage, nous devons aimer par-dessus tout le Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas? Et reconnaître que des fois Dieu nous parle, il y a un appel divin, et nous sommes tellement lents à répondre, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Parce que nous avons nos excuses, nous temporisons, nous sommes superficiels, où nos attachements temporels sont plus importants que l'attachement au royaume de Dieu qui pourtant subsiste éternellement. Pour qui, pourquoi vivons-nous? Alors, une première façon, il me semble, de suivre Jésus-Christ, c'est de venir à lui. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et ensuite, c'est de le suivre afin de répondre à son appel en obéissance, en se conformant à sa volonté, en acceptant cette crucifixion de Jésus dans nos vies, dans laquelle nous sommes identifiés afin d'apprendre à vivre pour lui. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est suivre Jésus-Christ, c'est vivre dans la lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » J'aimerais vous raconter une petite anecdote personnelle pour illustrer un petit peu ce verset qui a eu un grand impact dans ma vie, et encore, je dirais, parce que c'est un de mes versets préférés de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde, c'est passionnant d'étudier cela. J'étais militaire à Besançon, À l'époque, on faisait le service militaire. Ça fait sourire personne ici, c'est bizarre. Hein? Parce que vous, les jeunes, vous n'avez pas envie d'aller faire le service militaire. Hein? Mais nous, les plus âgés, ben, on a dû faire le service militaire. Hein? 12 mois, et puis apprendre à se soumettre. Et bon, des fois, des ordres un peu incohérents. Mais bon, ceci dit, dans mon service militaire, le Seigneur a travaillé mon cœur pour que j'abandonne mon métier, mes propres ambitions, et que je me décide enfin à lui céder ma vie pour aller dans le ministère et aller à l'école biblique, etc. Mais un jeune tchadien qui est un grand ami à moi, Vincent Baoukak, m'a envoyé ce verset. C'est un des rares chrétiens d'ailleurs qui m'avait envoyé un verset alors que je faisais le service militaire dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Mais ça a été, cette lumière a jailli par ce verset. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On n'a pas à se casser la tête, on a juste à suivre Jésus-Christ et à croire de tout notre cœur que le Seigneur a un chemin. Hein, ta parole est une lumière sur mon sentier, Dieu veut nous éclairer pour nous montrer le chemin. Alors, premièrement, la Bible dit en Éphésiens 5, je vous le lis, il est écrit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Vivre dans la lumière, c'est donc se séparer des ténèbres. C'est donc décider de ne plus marcher selon le monde, le péché, le diable, de se détourner de toutes ces ténèbres qui sont si puissantes dans ce monde, et le mensonge qui est lié aux ténèbres, et de se tourner vers la vérité qui est Jésus-Christ. Et donc de ne plus participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, dans lesquelles, peut-être, avant de connaître le Seigneur, enfin, pour la plupart ici, je suppose, nous étions en train de vivre des ténèbres, des œuvres infructueuses des ténèbres, qui n'avaient pas le fruit de l'odeur de sainteté de Dieu. Dieu nous a saisis et nous a rachetés à un endroit où nous étions en train de pécher, et même d'être contents de pécher, sans savoir que le péché amène un enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a ressuscités en Christ. Et nous étions de ce nombre-là, et nous étions perdus. Mais Dieu a trouvé bon de nous sauver. Et alors une fois qu'on goûte à la lumière, on a envie de marcher dans la lumière. Personne n'a envie de vivre dans les ténèbres. Chez soi, on a d'ailleurs pas mal d'électricité un peu partout, parce qu'on trouve bon la lumière. Donc c'est non seulement de vivre dans la lumière, mais c'est de marcher dans la lumière, de se laisser purifier par le sang de Jésus-Christ, confesser le péché, l'abandonner. Et vous savez qu'on a étudié dans nos groupes de maison la première épître de Jean, et les premiers versets sont d'une richesse extraordinaire, puisqu'il parle de la communion avec Dieu et de la communion avec les frères. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Plus je vois la lumière de Dieu, plus je marche dans la lumière. Plus je me cache, plus je m'enfonce dans les ténèbres. Dieu est lumière, et Dieu me demande de marcher dans la lumière. Cela veut dire de reconnaître ce que est péché dans ma vie, ce qui est tort dans ma vie. Vous n'avez jamais été en présence de quelqu'un qui veut toujours avoir raison? Vous n'avez jamais été en présence de quelqu'un comme ça? Ouais, j'ai raison et tu as tort. Oui, mais tu as tort d'avoir toujours raison. Même si tu es raisonnable dans ta pensée, peut-être que tu as tort. C'est difficile, n'est-ce pas, de voir quelqu'un qui veut toujours avoir raison, même lorsqu'il a tort. Parce qu'on peut penser être sincère d'avoir raison, mais être sincèrement dans l'erreur, sans le savoir. Donc on a besoin de rectifier nos pensées. Et peut-être que les autres sont là pour nous montrer que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Que notre façon de voir les choses ne sont pas la volonté de Dieu. Et ainsi, misérables que nous sommes, qui me délivrera de ce corps de péché, disait Paul, on a besoin d'aller à Jésus-Christ pour être purifiés. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de tout péché. Tout péché, chaque péché et toutes sortes de péchés. C'est le diable qui veut nous faire croire que Jésus ne peut pas pardonner nos péchés. Peut-être dans nos vies, il y a tel péché. Oh, c'est terrible cela. Comment Dieu peut-il me pardonner? Oui, Dieu pardonne si nous lui confessons nos péchés. Alors laissons Dieu agir dans nos vies, un peu comme ces sondes médicales ou sondes chirurgicales qui, n'est-ce pas, sondent les parties les plus intimes de notre être, n'est-ce pas, et vont éclairer un petit peu toutes sortes de parties de nos corps pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Les médecins utilisent cela. Et ce n'est pas toujours agréable d'avoir une sonde médicale, mais ça peut être nécessaire pour prévenir, pour guérir, et ainsi se laisser sonder en quelque sorte pour être dans la vérité. Et puis finalement, la Bible dit que nous sommes sauvés pour éclairer les autres. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel de la terre, c'est donner goût à la vie. Et quand on goûte à la vie avec la joie du Seigneur, que notre vie est différente, c'est ça vivre l'Évangile. Il faut que les gens qui nous entourent disent et pensent, il est différent des autres, il a quelque chose que je n'ai pas. Peut-être ils ne peuvent pas savoir exactement ce que c'est, mais si nous vivons l'Évangile, alors nous sommes différents. Et on est le sel à la terre parce que le sel donne goût à la vie et les gens ont envie de goûter ce que nous mangeons et vivons dans le Seigneur. Et puis, il est dit aussi qu'on est la lumière du monde. Dieu veut qu'on rende cette lumière de Dieu. Dieu est invisible, visible, par le fait qu'il vit en nous. Si Dieu est en vous, mais c'est la chose la plus extraordinaire que vous ayez, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous marchez dans la lumière, vous témoignez d'une affection au Seigneur, d'un sens de la vie que les gens n'ont pas autour. Parfois, on peut se laisser piéger en pensant au succès des hommes politiques, dans le show, business, dans la chanson, dans le sport. On a des idoles un peu partout, n'est-ce pas? Et la télé nous montre partout de quoi idolâtrer. Mais ce sont des illusions, ce sont des statues vaines, ce sont des stars qui passent, qui donnent une illusion à ce monde. D'ailleurs, Satan peut même leur donner du succès. Et je pense que parfois, il y a des succès dans certains domaines où le diable se réjouit, parce qu'en aveuglant de ténèbres et de mensonges, les hommes se détournent de Dieu et de Jésus-Christ. Mais nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas qu'on doit l'être ou le devenir. Christ dit, vous êtes le sel de la terre. La lumière du monde, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils glorifient Dieu le Père. Mais bien-aimés, nous avons ce défi devant Dieu, d'être ce que Dieu nous déclare, qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde. Je ne sais pas si vous êtes prêts d'aller un petit peu plus loin encore. On y va ou... Oui. Je peux vous influencer à dire oui, mais il faut que ça vienne du cœur. Bon, alors on continue par la grâce de Dieu. Suivre le Seigneur, c'est le servir. C'est le troisième point. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. J'ai marqué ici dans mes notes, écrites il y a des années, ceci. Il est impossible de suivre Jésus-Christ et lui être attaché sans le servir. Quand on aime quelqu'un, on devient serviteur. Et on est joyeux de l'être. Parce que notre Dieu n'est pas un dictateur, n'est pas un maître absolu qui fait de l'autoritarisme dans nos vies. Le Seigneur, notre Dieu, est un Père plein d'amour. Et il nous a laissé l'exemple en envoyant son Fils d'incarnation, d'humiliation, afin que nous puissions suivre Jésus-Christ dans son service comme modèle parfait qui nous a été donné. Marc nous dit ceci, c'est révolutionnaire, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu sur cette terre pour servir, tenez-vous bien, pour nous servir. C'est extraordinaire cela. Alors est-ce que nous nous plaignons parfois de devoir servir les autres ? Ou est-ce que nous pratiquons le moi d'abord? Moi d'abord dans ma satisfaction personnelle, mon petit égo chéri, dans mon orgueil personnel? Ou est-ce que et nous abandonnons notre égoïsme et nous devenons altruistes pour penser d'abord aux autres? Je vous ai déjà donné cette illustration, mais en anglais, il y a joy, la joie, J-O-Y, Jésus en premier, others en second, Y, yourself en troisième, d'abord Jésus, ensuite les autres en second, sont même en troisième. Et c'est là où est la joie du Seigneur. Mais c'est vrai que on aimerait bien avoir la joie sans passer par la croix, n'est-ce pas? On aime les raccourcis, les êtres humains, parce qu'on est fait de chair et on est fait de rien. Et on aime bien ses droits, ses privilèges. On aime bien dépendre, n'est-ce pas, être pourvu par les autres. Mais en fait, on doit apprendre à vivre pour les autres. En Colossiens 3, versets 23-24, il est écrit dans Colossiens, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Ce qui est merveilleux, c'est que non seulement Dieu nous appelle à le servir, mais il nous dit qu'il y a une récompense, comme si on méritait quelque chose. D'ailleurs, les anciens dans l'Apocalypse, lorsqu'ils reçoivent les couronnes, ils les jettent aux pieds du Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous ne méritons rien, si ce n'est adorer le Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que Dieu est juste, Dieu récompense le service. Mais il dit ceci, « Servez-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Dieu, la paix et la joie, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à être joyeux et dans la paix lorsque nous servons le Seigneur, à être dans les bonnes œuvres préparées d'avance. C'est intéressant parce que la Bible dit ici dans l'original, en Éphésiens, l'expression n'est pas toujours traduite comme cela, mais en Éphésiens chapitre 2 est écrit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et ici dans l'original, c'est « afin que nous marchions en elles ». Autrement dit, c'est comme si Dieu, dans son horloge divine, maître du temps, souverain dans le temps, quelque part a une volonté pour chacun de nous. Alors on ne doit pas être légaliste et tomber dans une espèce de crainte de ne pas, d'avoir raté la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu, quelque part, à chaque jour, a des bonnes œuvres préparées d'avance, a une application de sa vie en nous à donner au monde. Et ainsi, nous pouvons être dans sa volonté, mais nous devons apprendre à pratiquer la volonté de Dieu. Alors, vous savez que les gens qui m'ont amené au Seigneur faisaient partie de l'armée du salut. Et donc, ils m'ont amené à l'armée du salut, et j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais ce que j'ai retenu en lisant la biographie de William Booth, n'est-ce pas, c'est que les revers de veste avaient pour initiale, certainement vous les avez vus, SS. Alors, ce n'est pas les SS, heureusement, hein, mais c'est les SS du Seigneur, c'est complètement différent. Sauver pour servir. Sauver pour servir. Et puis, William Booth disait, on ne peut pas parler à quelqu'un du Seigneur s'il a le ventre creux, donc il faut lui donner de la soupe. Et puis, on ne peut pas parler du Seigneur si on le laisse indignement dans ses guenilles. Il faut l'habiller et le nettoyer. Donc, il fallait lui donner du savon. Sauver pour servir, soupe savon. Ça a été la déclaration de l'armée du salut dans des conditions économiques extrêmement difficiles où les pauvres étaient nombreux dans les rues de Londres. Vous savez que l'Angleterre a connu une crise économique profonde et les gens, malheureusement, se vouaient à des vices comme la prostitution, l'alcool. Et les gens se convertissaient et William Booth se promenait dans les rues avec une grosse caisse d'un homme assez costaud et gros. Devant, il tapait, il rassemblait les gens, il montait sur une chaise, il prêchait l'évangile et les gens se convertissaient. Sauf que l'église officielle n'en voulait pas, parce que c'était des rebuts de la société. C'est terrible cela. Sauver pour servir, et l'armée du salut a conquis le monde. Et bon, parfois, il y a eu quelques déviations, parce que, étant plus dans le domaine social que spirituel, mais sauver pour servir, ça voulait dire prendre soin des gens pour les amener au Seigneur. Ça, c'est la vocation de tout croyant. Je suis sauvé pour servir. Amen. C'est sûr? Vous le croyez? Allez, je finis. Un dernier point. Dernier point. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre ses traces. Et la Bible dit en 1 Pierre 2:21, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Un temps de persécution, que Pierre souligne, à la diaspora de ces Juifs qui étaient persécutés à cause de leur foi, il leur dit, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Ne vous étonnez pas si vous êtes appelés parfois à souffrir, parce que Jésus lui-même a souffert. Et donc, suivre Jésus-Christ, en 1 Pierre 2, 21, c'est d'abord mettre ses pieds dans les traces de sa souffrance. Et franchement, il n'y a aucun candidat, à part à moins d'être masochiste, il n'y a aucun candidat qui veut souffrir, pour souffrir. Mais nous souffrons à cause de Jésus-Christ, à cause du royaume de Dieu, à cause du diable, à cause de l'annonce de l'évangile. Et il ne faut pas être étonné qu'il y ait un combat, puisque Jésus lui-même a été appelé dans sa vie à souffrir, à être blasphémé, à être rejeté, à avoir toutes sortes d'oppositions, notamment à l'incrédulité des chefs religieux, et puis finalement d'être vendu pour 32 pièces d'argent par un de ses disciples qui est devenu un traître, et finalement être crucifié. Tout cela par amour pour nous. Alors, je vous ai déjà donné cette illustration, mais tout le monde ne la connaît pas. Tant pis, je la répète ce matin. Quand j'étais enfant, et oui, c'est arrivé, quand j'étais enfant, je n'étais pas bien grand, et donc je suivais mon papa, et on avait un privilège en tant que famille, c'est d'aller au bord de la mer chaque année. Et je dois dire que j'aime beaucoup, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'aime beaucoup la mer, particulièrement l'Espagne. L'eau de la mer est tellement chaude. Et, ah, bon, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, je ne suis pas allé en Guadeloupe, il y a la Réunion, je ne suis pas allé. Mais ceci dit, la mer, c'est extraordinaire, ça fait du bien. Bon, ça, c'est mon côté un petit peu romantique. Et quand j'ai envie de me relaxer, je pense à des plages extraordinaires dans lesquelles j'aimerais me baigner. Mais ça n'arrive pas souvent, malheureusement. Voilà, vous pouvez me faire un cadeau pour m'envoyer dans quelle place paradisiaque. Je suis candidat. Ceci dit, mon papa m'a mené avec lui et des fois on allait se baigner avant le petit déjeuner. Vous avez déjà fait ça? De très bonne heure, allez vous baigner dans la mer, puis revenir prendre un bon petit déjeuner. Oh, c'est extraordinaire, se baigner et le petit déjeuner. Ceci dit, mon papa m'a mené au bord de l'eau et on marchait ensemble. Et comme j'étais petit, je remarquais que mon papa, surtout quand on est proche de l'eau, les vagues arrivent, il laissait des traces. Et moi, je me disais, ouais, je vais suivre mon papa. Donc, je mettais mes petits pieds dans ses traces. Le problème, c'est que mon papa avait des plus grands pas que moi. Et dans mes petits pieds, ben, des fois, j'arrivais à mettre un petit pied dans sa trace. Et des fois, c'était tout à côté. Et même, je trébuchais. Et je me souviens qu'il me prenait par la main. Il me relevait et on continuait. Et je me suis dit un jour, bon, chacun a nos illustrations, hein, dues à notre imagination. Mais bon, un jour, je me suis dit, mais ça, c'est l'illustration avec le Seigneur. Alors, c'est vrai qu'après, la mer effaçait ses traces. Hein? Et parfois, on oublie les traces du Seigneur. Mais Dieu, en Jésus-Christ, a laissé des traces sur la terre extraordinaires. Le Seigneur nous a laissé notamment un modèle d'amour, de pardon, de dépendance totale avec Dieu le Père, d'humilité, d'endurance devant les injustices, le don total de sa personne, rien n'est donné avec retenue de son amour, sauf évidemment à Gethsémané. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix à Gethsémané, toutefois que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Des traces de tempérance, de douceur, de bonté, de fidélité, de piété, de zèle, et ainsi vous avez compris. Et puis nous essayons de marcher dans ces traces, parce que la Bible dit notamment, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et je pense à ce passage en Hébreu, ce fameux passage en Hébreu chapitre 12. Laissez-moi terminer avec ça. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voyez-vous, Jésus a connu la joie due à la souffrance. Et la joie est venue après la croix, la joie d'être dans le plan de Dieu et d'avoir sauvé les hommes. Et ainsi, Jésus, dans la carrière qui lui a été ouverte, nous a montré le chemin pour nous de persévérance, d'abandon de tout fardeau, afin de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Et ainsi, il nous a laissé ses traces d'endurance, de foi et d'espérance, parce qu'après la croix, il y a eu la résurrection, et il a été élevé à la droite de Dieu le Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Mais reconnaissons parfois, et je terminais vraiment avec cette illustration, que la course devient difficile. Notre marche est alourdie, notre pas est vacillant, notre course parfois s'arrête. Je me souviens d'un homme aux derniers Jeux Olympiques qui a été bousculé lors d'une course alors qu'il était l'aspirant à la médaille d'or. Et c'était terrible de s'être entraîné pendant 4 ans, d'avoir fait toutes ces espèces de sacrifices physiques, familiaux et autres, de passer des heures d'entraînement et tout d'un coup d'être disqualifié parce que quelqu'un d'autre l'a bousculé dans un virage de façon injuste. Ainsi, nos vies parfois n'aboutissent pas aux idéaux chrétiens et à la vie chrétienne que l'on espérerait vivre. Et ainsi, nous vivons des choses que nous ne voulons pas vivre. Nous pensons des choses que nous ne voulons pas penser. Et nous essayons de vivre tant bien que mal la meilleure vie chrétienne possible. Et nous pourrions nous décourager. Alors, il y a des années, en tant que pasteur, à un moment donné, j'étais découragé au Canada parce que je voulais passer plus de temps dans l'évangélisation. Le ministère pastoral prenait beaucoup de place et c'est normal, quelque part. Je me disais, mais ma vraie joie, quelque part, c'est quand même l'évangélisation. C'est d'annoncer l'évangile et de courir dans la carrière d'évangéliste. Et puis, j'ai entendu le pasteur d'une grande église qui partageait qu'une fois par semaine, il avait une activité d'évangélisation et qu'il y tenait particulièrement et que c'était normal qu'il ait un temps à part pour pratiquer le ministère de l'annonce de l'évangile, en plus des prédications, parce que par la grâce de Dieu, le prédicateur annonce l'évangile régulièrement, même lorsqu'il prêche dans l'église. Merci Seigneur. Et puis, j'ai trouvé un petit peu que c'était dur pour moi de persévérer, parce que les obstacles étaient nombreux, on était dans un combat, la construction d'une grande église, et il y avait beaucoup d'obstacles que l'ennemi mettait devant nous. Et il a raconté cette anecdote, et je termine réellement avec ça. Merci de votre patience. Il racontait l'histoire d'un homme, un coureur de fond aux Jeux Olympiques, qui arriva dans l'enceinte du stade bien après les autres, notamment bien après le vainqueur. Le vainqueur est arrivé, tout le monde s'est levé, le marathon, c'est pas facile. Et c'est une des grandes courses des Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Et quand on voit des gens souffrir pendant tant d'heures et de kilomètres et qui arrivent dans le stade et que voilà, le vainqueur fait le dernier tour du marathon, enfin le dernier tour du stade pour finir le marathon, on est en admiration. Et les gens se lèvent, applaudissent, voilà, il a gagné, il a passé la ligne, on le félicite. Souvent, ils tombent d'épuisement, ces gens-là, ils se relèvent quand même. Et puis, voilà, médaille d'or. Alors, dans ce cas-là, on a signalé, donc, le vainqueur, médaille d'or, le vainqueur, médaille d'argent, le vainqueur, médaille de bronze. L'hymne national du pays a retenti et la course était bouclée. Sauf que, tout d'un coup, au milieu d'autres épreuves, on entend dans l'enceinte de la sono du stade un dernier coureur du marathon. Tout le monde pensait, la course est terminée. Et voilà un coureur qui arrive, qui passe la porte, complètement épuisé, qui arrive tout juste à courir ou à finir sa course, vacillant, épuisé. Mais il veut achever la course, alors il commence à entamer ce dernier tour. Enfin, finir le marathon, faire ce tour du stade. Et tout d'un coup, les gens voient un homme qui persévère, qui endure la souffrance pour achever la course. Et autant ils se sont levés pour acclamer le vainqueur, autant tout d'un coup, le stade, ému par cette persévérance de cet homme, de ce coureur, se lève et applaudit pour qu'il achève la course, pour qu'il puisse achever la course. Et il arrive à achever la course et il tombe épuisé après la ligne. Et son coach vient le voir et dit, mais je t'avais dit d'arrêter. Ça fait longtemps que la course est achevée. Tu t'épuises là. Tu aurais dû arrêter. Et vous savez ce qu'il a dit le coureur? Il a dit, moi, je ne cours pas pour moi, je cours pour mon pays. Parce qu'il avait la notion de sa responsabilité, dans le sens que son pays l'avait enrôlé comme coureur, et pour honorer son pays, il avait voulu finir la course. Eh bien, je dirais, vous avez compris certainement l'application, de même le croyant parfois, bien fatigué, ou trouvant difficile certains aspects de la vie chrétienne ou certaines périodes de sa vie, il persévère jusqu'au bout parce qu'il ne court pas pour lui-même, mais il court pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il est prêt à courir dans la carrière qui lui était ouverte parce qu'il s'agit du royaume de Dieu. Une cause qui le dépasse. Alors on a vu ensemble que suivre Jésus-Christ, c'est d'abord répondre à son salut. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et puis c'est répondre à son appel de devenir de pécheurs que nous étions, pratiquant le péché des pécheurs d'hommes. Est-ce que nous sommes obéissants et pratiquons ce que Dieu nous demande, cet appel de faire de toutes les nations des disciples? Ensuite, on a vu que vivre dans la lumière, ça consiste à confesser son péché, l'abandonner, à vivre en pureté de vie, confessant les péchés les uns des autres et à marcher dans la lumière. Comme dit Ésaïe, par ta lumière, je vois la lumière. C'est un verset extraordinaire de la Bible, ça. Et puis, on a vu que c'est le servir. Si Jésus nous a appris à nous a laissé ce modèle de service, alors nous, est-ce que nous sommes vraiment engagés, fidèles à notre ministère envers le Seigneur, dans les petites choses comme dans les grandes choses? Et puis finalement, c'est suivre ses traces. Et dans cet aspect de vie chrétienne, ce modèle qui est devant nous, ce géant, Dieu, évidemment, fait homme incarné, nous nous sentons faibles, nous nous sentons incapables, loin du modèle que nous voulions être. Mais le Seigneur nous prend la main et il nous garde, il nous sanctifie, il nous donne la force d'achever la course. Comme disait Paul, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Prions, s'il vous plaît.